Chapitre 5. La visite. Pendant la dernière partie du dialogue que nous venons de reproduire, une apparition s'était glissée inaperçue dans la chambre de Fabiola, qui, si elle avait vu entrer la nouvelle visiteuse, aurait coupé court à la conversation et évité la scène qui venait d'y mettre fin. Les différentes pièces des maisons romaines étaient plutôt divisées par des rideaux et des portières que fermées par des portes, et il était facile, surtout pendant une scène aussi vive, d'entrer sans être remarqué. C'est ce qui venait d'arriver, et quand Syrah se leva pour quitter la chambre, elle tressaillit en voyant debout, se détachant radieuse sur les épais rideaux de pourpre, une douce figure qu'elle reconnut immédiatement et que nous allons regarder attentivement. C'était la figure d'une toute jeune fille, ou plutôt d'une enfant qui pouvait avoir 12 ou 13 ans, tout habillé de blanc comme nous représentons les anges, et sans un seul ornement dans sa toilette. On lisait sur sa physionomie la candeur de l'enfant, unie à la raison d'un âge plus avancé. Ce n'était pas seulement la pureté de la colombe qui brillait dans ses yeux, comme parle l'écrivain sacré, mais souvent il semblait animé de la flamme d'un amour ardent et pur. Elle passait au milieu de tous les objets qui l'environnaient, sans s'attacher à un seul, et semblait absorbée dans la contemplation d'un être qui, invisible pour les autres, se manifestait à elle et remplissait toute son âme. Son front, siège de la candeur, était ouvert, son regard plein de franchise. Un sourire gracieux et bon illuminait ce jeune visage, il reflétait comme un miroir sans tache les sentiments et les idées qui laissaient en passant une trace rapide et profonde dans cette âme. Ceux qui la connaissaient savaient combien elle s'oubliait elle-même pour ne songer qu'aux autres. Elle partageait son cœur entre ceux qui avaient le bonheur de l'approcher et l'objet invisible auquel elle s'était consacrée. Quand Syrah aperçut cette douce vision, elle s'arrêta un moment, croyant voir un ange. Alors l'enfant prit la main de l'esclave et, l'ayant baisée avec respect, lui dit « J'ai tout vu. Attendez-moi quand je partirai dans la petite salle qui est près de la porte. » Puis elle s'avança. Quand Fabiola l'aperçut, elle rougit violemment, car elle devina que l'enfant avait été témoin de la colère à laquelle elle avait cédé. D'un geste altier, elle renvoya ses esclaves, puis souhaita avec grande affection la bienvenue à sa jeune parente, car des liens de famille unissaient les deux jeunes filles. Nous avons dit que le caractère hautain de Fabiola ne lui permettait pas d'aimer beaucoup de personnes. Elle faisait cependant une première exception en faveur de Frosine, une affranchie qui avait été sa nourrice et qui remplissait dans la maison les fonctions de femme de confiance. Pour cette créature dévouée, Fabiola était le plus parfait des ouvrages des dieux, la plus accomplie, la plus admirable personne de Rome. Fabiola, malgré sa froideur, aimait aussi sa jeune parente, la traitait avec une tendre affection et cherchait à la voir souvent près d'elle. « C'est vraiment très aimable à vous, chère Agnès, dit la jeune fille d'un ton radouci, de vous rendre ainsi à mon invitation et de venir dîner avec nous. Mon père a invité aujourd'hui un ou deux nouveaux venus et j'étais doublement désireuse d'avoir une gracieuse compagne avec laquelle je pourrais causer sans paraître affectée de dédaigner mes hôtes. Il y a parmi eux un étranger qui éveille ma curiosité. C'est Fulvius, on ne parle à Rome que de sa beauté, de ses richesses et de ses talents, quoique personne ne puisse savoir de quelle planète cet astre éclatant nous est descendu. Ma chère Fabiola, reprit Agnès, je suis toujours heureuse de vous voir et mes bons parents me le permettent volontiers. Vous n'avez pas besoin de me remercier d'un plaisir que je me donne. Et vous êtes venue comme à l'ordinaire, continua Fabiola en plaisantant, avec votre même robe d'un blanc de neige, sans un ornement, comme si c'était le jour de votre mariage. Il me semble toujours que vous célébrez des fiançailles éternelles. Mais Dieu puissant, qu'est-ce que cela? Vous êtes-vous blessée? Vous avez là, près de l'épaule, sur le devant de votre tunique, une large tache rouge, on dirait que c'est du sang. Voulez-vous changer de toilette? Pour rien au monde, je ne le ferai, Fabiola. C'est le bijou unique, le seul ornement que je désire porter ce soir. Cette tache, c'est du sang, c'est le sang d'une esclave. Mais à mes yeux, il est plus noble que celui qui coule dans vos veines et dans les miennes. La vérité apparut alors à Fabiola. Agnès avait tout vu. Humiliée, elle lui dit avec un ton où le dépit se mêlait à la honte. « Vous désirez donc montrer à tous une preuve de la vivacité de mon caractère que j'ai laissé apercevoir en châtillant une esclave insolente ?»« Ne croyez pas cela, chère cousine. Je veux seulement conserver un souvenir d'une leçon de courage et de grandeur d'âme donnée par une esclave, leçon que la plupart de nos praticiens philosophes auraient peine à nous donner. » « Quelle étrange idée ! En vérité, Agnès, je trouve que vous exagérez les mérites de cette misérable classe du peuple. Après tout, que sont-ils ? Des créatures humaines comme nous, douées de la même raison, de la même intelligence que nous. Vous ne pouvez le nier, Fabiola. Tous sont les membres de la même famille, et si Dieu qui nous a donné la vie peut être appelé notre père, il est aussi leur père, et tous sont nos frères. » « Un esclave, mon frère ? Une esclave, ma sœur ? Agnès, les dieux m'en préservent ! Les esclaves sont notre propriété, nos biens, et je ne puis penser qu'ils soient en leur pouvoir d'agir, de sentir, indépendamment de la volonté de leur maître et de leur bon plaisir. » « Venez, venez, dit Agnès avec une douce voix, ne nous laissons pas aller à de longues discussions. » Vous êtes trop franche et trop vraie pour ne pas reconnaître qu'aujourd'hui même, vous avez été surpassée en raisonnement, en esprit, en force d'âme, en ce que vous admirez le plus, par une esclave. Je vois votre réponse dans cette larme qui s'échappe de votre paupière. Très chère cousine, je désire éviter à l'avenir que vous ressentiez un tel chagrin. Voulez-vous m'accorder une demande ? Tout ce qui est en mon pouvoir, Agnès. Permettez-moi donc de vous acheter Syrah. Je pense que c'est son nom. Vous n'aimerez plus sans doute à la voir près de vous. Détrompez-vous, Agnès. Je veux cette fois dompter mon orgueil. J'estime Syrah et peut-être irai-je jusqu'à l'admirer. C'est pour moi un sentiment nouveau envers une personne de sa classe. Mais je crois, Fabiola, qu'elle se trouverait plus heureuse dans notre maison que dans la vôtre. Je n'en doute pas, chère Agnès, vous avez le don de rendre heureux tous ceux qui vous entourent. Je n'ai jamais vu une maison semblable à la vôtre. Il semble que vous y mettez en pratique cette étrange philosophie à laquelle Syrah faisait allusion et dans laquelle l'esclave devient l'égal de l'homme libre. Chacun d'entre vous remplit, le sourire aux lèvres, son devoir accoutumé, et personne ne paraît chargé de commander aux autres. Dites-moi donc votre secret. Agnès sourit. Je soupçonne, petite enchanteresse, que vous cachez dans cette chambre mystérieuse dont l'entrée m'est interdite les charmes et les filtres dont vous vous servez pour vous faire aimer de tous. Si vous étiez chrétienne et qu'on voulut vous exposer à la fureur des animaux féroces de l'amphithéâtre, je suis sûre que les léopards eux-mêmes viendraient se coucher à vos pieds et les baiser. Pourquoi devenez-vous si sérieuse, enfant ? Vous savez bien que je plaisante. Agnès paraissait absorbée, ses yeux s'étaient levés vers le ciel, avec ce tendre et doux regard dont nous avons parlé, elle semblait contempler un être invisible et paraissait écouter une voix bien aimée. La vision passa vite et l'enfant reprit gaiement. « Riez si vous voulez, Fabiola, de plus étranges choses sont arrivées, et si une prédiction si terrible devait se réaliser pour moi, Syrah serait justement la personne que je voudrais avoir à mes côtés. » Vous devriez vraiment me la donner. Au nom du ciel, Agnès, ne prenez pas mes paroles au sérieux. C'était un simple jeu. J'ai une trop haute opinion de votre bon sens pour croire un pareil malheur possible. Vous avez raison quand vous parlez du dévouement de Syrah. Vous vous souvenez de la terrible fièvre contagieuse que j'eus l'été dernier, pendant que vous étiez à la campagne. Il fallait employer la verge pour obtenir des autres esclaves qu'elles approchassent de mon lit. La pauvre Syrah voulait à peine me quitter, elle me veilla, me soigna jour et nuit, et je crois vraiment qu'elle a beaucoup contribué à ma guérison. Et vous ne l'aimez pas, en retour de ses soins affectueux ? L'aimer ? Aimer une esclave ? Enfant ! Je la récompense généreusement, mais je ne puis savoir ce qu'elle fait de ce que je lui donne. Les autres esclaves me disent qu'elle n'économise rien, et que, d'un autre côté, elle ne dépense rien pour elle-même. J'ai entendu dire aussi qu'elle avait la sottise de partager, chaque jour, sa nourriture avec une mendiante aveugle. Quelle singulière manie !« Très chère Fabiola, s'écria Agnès, Syra doit m'appartenir. Vous m'avez promis de céder à ma prière. Dites-moi votre prix et laissez-moi la ramener à la maison ce soir. » Eh bien, j'y consens, car lorsque vous me demandez, il est impossible de vous refuser. Mais n'arrangeons pas cette affaire ensemble. Envoyez demain matin une personne à l'intendant de mon père et tout sera pour le mieux. À présent que ce grave marché est conclu, allons retrouver nos hôtes. Mais vous avez oublié vos bijoux ? Ne me parlez pas de ces bagatelles, je ne les mettrai pas pour cette fois. Aujourd'hui, je n'ai aucun goût pour ces sortes de frivolités.